Festival Vôtre, une exposition déjà dans le titre, il y a quelque chose qui invite à être présent, comme si on écrivait, on était dans une correspondance avec quelqu'un et on terminait avec cette expression qui sonne un peu familière mais qui est évidemment complètement inventée. Mais en tout cas, il y a dès le départ l'idée d'être dans une exposition qui se veut généreuse, qui se veut dans la relation aussi avec les autres, convier les autres pour s'amuser, pour faire des choses ensemble. Et effectivement, forcément, ce thème a été dicté par la récurrence, l'anniversaire des 40 ans de la Halle, on l'a dit. Donc je trouve que 40 ans pour un lieu de culture, un milieu rural, ça se fête, ça se souligne, ça se fête. En plus, un bel âge, effectivement, et avec aussi, je veux dire, un suivi et une fidélité de nos publics qui sont largement aussi les auditeurs et auditrices à l'autre côté du poste. Donc voilà, l'idée était vraiment de marquer une date anniversaire, de la marquer avec une exposition collective, parce qu'on peut effectivement avoir toujours plusieurs facettes et plusieurs entrées autour de la même thématique, et de dire... Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est important aussi de célébrer? Et donc, effectivement, tout au long du parcours de l'exposition, qui commence effectivement dans notre première salle et puis jusqu'à l'auditorium, donc qui occupe vraiment tous les espaces de centre d'art, on a décidé d'inviter des artistes des différentes générations, hein, comme on a l'habitude de faire. Il y a des très, très, très jeunes artistes, comme typiquement, on a pu bénéficier d'un prêt d'œuvre de l'Institut d'art contemporain des villes urbaines de Christian Boltinsky. Donc là, on est dans quelqu'un qui a une œuvre un peu plus historique. Mais en tout cas, d'aborder la thématique de la fête. Donc, qu'est-ce qu'est la fête? Forcément, on pense tout de suite les côtés liés à la fête d'anniversaire, elle a peut-être un côté plus enfantin, donc on est vraiment accueilli dans une première salle qui aborde à travers différentes œuvres la réception, le fait de convier des gens à la maison pour célébrer quelque chose avec des œuvres assez différentes. Donc j'ai cité Boltinsky, on a plutôt une œuvre qui rappelle comme une nature morte, mais rappelle plus une fête d'anniversaire plutôt d'enfant. On a un Barca Armor qui est plutôt dans une réception assez formelle et en même temps décalée, donc avec des objets qui sont travaillés de manière à nous rappeler forcément les arts de la table assez classiques, qui est élégant, mais justement toujours avec un petit décalage, et puis surtout un banquet avec des pâtisseries qu'on ne s'attend pas sur cette mise en table que vous découvrirez. Il y a une grande peinture d'Hugo Capron qui est une peinture feu d'artifice, et donc vraiment là on est vraiment dans la joie, dans la célébration. Et puis un film qui est installé assez drôle de Marie Lozier, où pareil, on est dans l'allégresse, c'est vraiment une célébration de l'allégresse, de l'amitié aussi, avec un côté très 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 burlesque, encore une fois, à découvrir en vrai. Et puis au fil des salles, on passe dans un univers un peu plus forain, un peu plus peut-être hors du temps, avec des sculptures en verre de Romane Charlot, qui, elle, travaille effectivement avec des petites machines, des jurettes, composé en verre, donc avec ses côtés de reflets aussi colorés, vraiment des vitraux en fait, c'est des sculptures vitraux, un verre soufflé aussi, mais voilà, qui nous plonge effectivement dans peut-être un univers de cirque, en tout cas d'une époque un peu révolue, mais quand même assez présente dans la mémoire collective, où aussi d'ailleurs la fête foraine était aussi quand même un terrain d'expérimentation, souvent pour les premiers jeux d'optique qu'on conduit après à l'invention du cinéma. Donc on est vraiment dans un aspect comme ça, bon enfant, et vraiment de fête dans l'espace plus public. Et puis on termine l'exposition avec une grande installation des Tony Regazzoni, qui est plutôt, on revient un peu ancré dans le contemporain, avec un hommage à la boîte de nuit, à la grosse boîte de nuit des campagnes, qui a marqué avec la disco les années 90, et puis à partir des années 2000, c'est un peu éteint, un objet vraiment de défoulement, de joie collectif qui malheureusement n'existe plus trop aujourd'hui. Donc c'est à la fois un hommage et aussi une réflexion de l'importance aussi de ces lieux qui étaient là pour se réunir dans des territoires des fois effectivement qu'on voit ruraux. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la mobilité, de se retrouver. Donc vraiment une installation en plus qui est vraiment immersive, et donc on termine l'exposition effectivement dans une boîte de nuit. Et vous le savez, la halle est en forme circulaire, donc quand on ressort dans la bibliothèque, on retombe donc à l'intérieur de l'exposition où, comme a marqué en quelque sorte le passage d'une attitude de joie, on ouvre l'exposition par un grand rideau, donc double face, qui célèbre à la fois un côté plus du jour, du relax, de faire niente, de lié à peut-être au fait d'être dans la nature plutôt en journée, et puis une autre face qui est plus liée à la nuit et à comment on peut passer du bon temps la nuit. Donc vraiment, c'est rideau double face. Et c'était important aussi d'avoir ces collectifs présents dans l'exposition parce qu'ils vont ouvrir les festivités de notre week-end vraiment de célébration. Parce que là, voilà, on parle de la thématique de la fête, de l'importance de la joie, de l'importance aussi de sortir de l'ordinaire, hein, voire de renverser un peu l'ordre, la routine quotidienne. Mais là, c'est bien de la voir, hein, mais je trouvais que qu'il fallait l'expérimenter aussi. Donc, on a organisé un week-end les 12 et 13 juin avec la médiathèque et aussi avec un partenaire plus musical qui est l'association Calcaire pour avoir 2 jours de célébration. Voilà. Et donc, les enfants de Diane vont ouvrir cette programmation avec un ciné-drag Titanic. Et donc, c'était important pour moi, c'est un collectif qui est à la fois, ses membres sont formés aux Beaux-Arts, notamment de Lyon, mais aussi on pratique très, très poussé la performance. Et c'était important d'avoir un moment éphémère vraiment pour des performances, mais puis aussi une œuvre qui reste et qui ouvre, qui marque les seuils de cette exposition.
Ce sera l'articulation pour les 40 ans. Hein. On va retrouver en fait un petit peu des éléments tout au long de ces 2 journées, 12 et 13 juin, c'est ça ? Non-stop ?
Non-stop, oui.
Pratiquement.
De petites nuits, mais oui. Oui. Oui, oui, à partir de vendredi à 18h, on ouvre les portes. Et puis, donc je le dis avec un moment un peu des célébrations officielles, des discours qui vont donner là, le ciné-drag. Puis les lendemains, samedi, avec une journée plutôt marquée par des activités un peu, on va dire, en famille, avec Radio Royan aussi, qui va faire un beau focus en fin de matinée sur notre histoire. Des ateliers, des lectures, une performance plus organisée par la médiathèque avec la compagnie cyclique qui ont un marathon littéraire des 10h à 18h. Donc voilà, une programmation de jours assez variée, des buffets. Un buffet apéro à l'heure de l'apéro par les étudiants des l'école de l'ESAD, l'école supérieure d'art et design de Valence, où pareil, on va se retrouver plutôt autour d'un banquier. Et qu'est-ce que, voilà, performance qui va faire aussi parler les participants, les participantes de ces moments de retrouvailles et des moments de convivialité. Et puis, la soirée du samedi soir avec 3 concerts organisés par justement cette association Calcaire fraîchement installée à Pont-à-Royan et dans le Royan plus général. Un Calcaire qui fait danser la place de la Halle. On bascule donc de nos salles à la place avec des concerts, des DJ sets, mais aussi du VJing, avec notamment les groupes Citron Citron, Incre, qui est plutôt sur le do live électro, et puis en toute fin des soirées, DJ Cléo, pour terminer en beauté ces cycles d'anniversaire, en tout cas cette fête d'anniversaire, en 1h du matin.
Eh bien, merci beaucoup, Giulia Torati, pour ce coup d'éclairage, ce moment de célébration, on peut le dire, tant au niveau exposition qu'au niveau festif pour ses 40 ans, les 12 et 13 juin, la halle de Pont-en-Royan.
N'ai pas oublié, c'est un peu tôt peut-être pour les dire, mais effectivement, on parle des cycles d'anniversaire parce qu'il y a une dernière date, le 4 septembre, avant-dernier jour de l'exposition, où on va projeter un documentaire des Marie Loisier dont l'œuvre Eat My Makeup est présente durant toute l'exposition, mais qui en pratique aussi des documentaires, donc avec des films un peu plus des longs métrages. Et donc, on va présenter un de ces films, qui est Félix Im Vanderland, qui est un portrait fantasque et imaginaire du DJ berlinois Félix Cubin.
Ça, c'est pour le finissage de l'exposition.
Tout à fait.
Le 4 septembre à 18h30. Merci, et on vous retrouve très prochainement, hein, pour l'exposition qui se poursuivra jusqu'au finissage avec les 12 et 13 juin pour ces week-ends festifs des 40 ans. Bon anniversaire! Je précise que l'exposition festivement vôtre est d'accès libre. C'est Jonathan Ferrara, le médiateur, qui va nous le confirmer avec des horaires, bien sûr, qui ont été élaborés depuis un certain nombre d'années. On retrouve une rythmique assez continuelle en semaine et des temps forts aussi associés à cette exposition.
Les expositions se visitent donc les mardis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h, hors jour férié. Et pour le showcase, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans notre espace sur la place de la Halle. À vos agendas, du coup, pour nos rendez-vous autour de l'expo. Alors, dans un premier temps, ce sera le dimanche 7 juin, où on vous propose de monter en selle pour un parcours culturel et sportif, on propose de relier à vélo nos expositions à celle du couvent des Carmes, une escapade qui se terminera en beauté, aussi avec le spectacle Étranges étrangers, programmé par le Diapason. Et donc, pour ça, on se rejoindra à la Halle à 11h avec votre vélo et aussi votre casse-croûte pour lancer la journée. Le second rendez-vous, du coup, n'est pas des moindres. Ce sera le week-end d'anniversaire de la Halle les 12 et 13 juin, dont on vous a déjà longuement parlé. Vous pourrez en retrouver en tout cas le détail sur notre site web, avec vraiment tout le déroulé de ces deux jours de fête. Et puis, donc un dernier rendez-vous aussi de finissage le 4 septembre, avec une dernière visite commentée de l'exposition festivement vôtre, qui sera donc suivie aussi de la projection du film Félix in Wonderland de Marie Lozier. Comme je le disais, toutes ces informations, que ce soit sur les expositions, mais aussi le détail de nos événements, est à retrouver sur notre site web www.lahalle-6-pontorroyant-toutcollé.org et surtout dans la rubrique rendez-vous pour nos événements. Et un dernier mot pour vous dire donc que l'exposition, comme tu le disais Patrice, mais aussi tous les ateliers, toutes les activités proposées par le Centre d'art sont en accès libre, gratuite et ouvert à toutes et tous. Donc n'hésitez pas à en profiter sans modération pour elle. Voilà, à bientôt à la Halle.
Au lieu d'art, la Halle, conjointement avec les 40 ans qui sont bien fêtés à travers cette exposition que nous retrouvons jusqu'au 5 septembre, c'est aussi un autre programme qui court conjointement avec, bien sûr, une immersion dans les Alpes, ce dont Julia va nous rappeler en ce qui concerne les différents partenaires. Et puis, bien sûr, l'artiste que je salue immédiatement, Elva Pelzer. Bonjour Elva.
Bonjour.
Voilà, on vous retrouve pour nous détailler un petit peu ce que vous positionnez dans ce showcase juste au-dessus du lieu d'art pour nous faire apparaître des dimensions des Alpes, notamment de sa flore. Nous verrons cela plus précisément. Donc un programme qui se tient dans les Alpes, mais plus précisément dans les Préalpes, le Vercors, là où justement se tient dans les Piémonts ce lieu d'art. Alors Julia, c'est effectivement depuis un certain nombre d'années que vous avez tissé avec d'autres partenaires de cycle, on pourrait dire, chaque année avec un artiste invité qui s'empare de quelque chose en particulier.
Oui, tout à fait. Les dispositifs Alpage, donc, qu'on a initiés il y a 4 ans maintenant. Donc, Eva est la troisième artiste invitée, mais on a une autre artiste, Julie Kiefer, qui sera en résidence dans un mois et demi. Donc, depuis 4 ans, on a initié un programme de résidence un peu particulier avec deux autres associations artistiques, Villa Glovette à Villard-des-Lans et l'Invers des Pentes, qui est une association qui n'a pas de lieu physique mais qui s'appuie sur différents refuges effectivement entre les parcs des Écrins et les parcs du Vercors, donc aux résidences qui donnent la possibilité aux artistes chaque année de vivre au rythme de ces milieux naturels. Donc on a dit la résidence est intitulée Alpage, donc dans des régions effectivement qui sont façonnées par les pastoralismes en altitude, et d'être dans un temps plutôt estival avec les débuts un peu de la saison de la transhumance qui est déjà montée sur les plateaux. Un refuge, donc notre refuge partenaire depuis 2 ans est le refuge de la Molière, situé sur le plateau du même nom, qui accueille pendant une semaine nos artistes, vraiment avec un accueil, ils ouvrent leurs portes, et puis les artistes, effectivement, dans cet environnement très particulier, malgré tout, en immersion totale dans la nature, dans des paysages et dans de contextes qui sont assez spécifiques. L'idée, c'est effectivement qu'ils s'inspirent un peu de ce qu'il et elle voir, rencontrent, à la fois en termes d'expériences peut-être plus naturalistes, mais aussi de rencontres faites au refuge avec les autres personnes qui circulent, les randonneurs, les gardiens, les gardiennes aussi. Donc vraiment, donner un contexte et puis laisser carte blanche pour que les artistes produisent chaque année une œuvre spécifique, forcément inspirée directement par cette expérience. Et puis, il y a une deuxième phase, plutôt à l'automne, justement, quand c'est le temps de redescendre en quelque sorte dans la vallée. Donc, suivre un peu ces rythmes des saisons, de cette transhumance, même si, encore une fois, on n'est pas obligé à avoir des œuvres qui réfléchissent directement ces sujets. Et bien, plutôt à l'automne, les artistes sont accueillis à Villa Glovette pour continuer les recherches, amorcer une production, et tout ça est ensuite montré au printemps suivant, chez nous, dans notre espace plutôt lié à ces projets plus expérimentaux et tout terrain aussi, qui est le showcase Place de la Halle. Et donc là, on est très très content d'avoir accueilli cette année Eva Pelzer, parce qu'elle a vraiment eu une approche très différente aussi de ce qu'on a pu voir les années précédentes. Moi, je dis, c'est un programme des résidences qui est récurrent. Donc moi, je trouve que c'est presque comme une collection d'expositions qu'on a chaque année. Et j'aime beaucoup de voir la diversité des approches et des recherches qui chaque fois nous sont proposées, et découvrir l'antre de la Giansanière qui se présente à nous pour ces fins de printemps et été 2026.
Ce qui correspond d'ailleurs, Eva, à la floraison de la Giansienne, l'exposition. Pas tout à fait.
Quand je suis montée au refuge tout début juillet ou fin juin 2025, le premier truc que j'ai vu, c'est la Giansienne qui était partout sur le plateau de la Molière. Et non seulement je suis une amatrice de la plante et de la boisson, et aussi je m'intéresse beaucoup dans mon travail artistique aux pratiques populaires, au folklore, au savoir paysan, que je détourne et que aussi je fictionne, mais c'est un point de départ et de recherche. Et donc, ça, c'est pour ça que l'agencienne m'a tout de suite intéressée et je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Et ça me plaisait aussi de me hyper concentrer sur une seule chose du paysage qui pourtant peut raconter peut-être plus que juste que la plante en elle-même. Et aussi, dans ma pratique artistique, c'est pas la première fois que je fais appel aux boissons. Parce que là, il ne s'agit pas que de ça, mais en partie. L'année dernière, j'étais déjà dans les Alpes, à Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui est au pied du Mont-Blanc. C'était aussi une résidence. Et là, je m'étais intéressée à la grolle, qui est un objet à boire aussi. Un pot en bois avec plusieurs becs qui sert à boire de manière conviviale l'agneau et le café. Et donc, c'était un peu évident pour moi que l'agencienne, il fallait que j'en fasse quelque chose.
Donc, quand vous êtes arrivé en immersion là, sur le Vercors, vous avez déjà une petite idée avec peut-être vos expériences passées, mais l'agencienne est venue un peu naturellement au fil des observations
Oui, l'agencienne, je n'avais pas du tout pensé avant. Je m'étais dit à la base que le refuge, ça allait être pour moi un peu comme une île, puisque c'est presque le cas, c'est isolé du reste de la civilisation, si on veut, et ça a ses propres manières de fonctionner, et même propre météo, des fois, comme c'est très haut, je sais pas, il y a eu un orage hyper fort, que j'ai rarement vu des orages aussi forts, parce qu'en altitude, je pense que c'est plus fort. Et je m'étais dit que sur cette île, j'allais recréer un monde, un peu à la manière d'un Robinson. Quand j'ai vu l'âge ancien, je ne savais pas que j'allais uniquement me focus là-dessus, mais je me suis dit, il y en aura dans la microculture que je vais réinventer. Et au refuge, j'ai fait plein de petites expériences, mais ce que j'ai gardé, j'ai fait un étendard ancien avec les vieilles couvertures du refuge. Je me suis servi dans les réserves, un peu les granges du refuge. Et donc, c'était un peu mon drapeau, le drapeau initial du projet. Après, au refuge, ce que j'ai préféré, c'était en fait vivre au refuge avec notamment la gardienne du refuge, Julie. Et c'était une vraie rencontre. Et j'avais aussi rencontré le berger. Et à chaque fois, je leur posais un peu des questions sur l'âge ancienne, mais c'était presque un prétexte pour les rencontrer eux. Voilà, j'ai fait du quad avec le berger, c'était très bien. Et donc ça, c'était le point de départ.
Vous avez commencé à creuser, et puis l'âge ancienne, ce côté plastique est joli. Hein,
oui.
L'âge ancienne dont il s'agit, puisque c'est une famille assez vaste.
Oui, là, en l'occurrence, c'est l'âge ancienne jaune. Et en fait, c'est la plus commune dans ce qui est transformation alimentaire ou même médicale, je pense. Et aussi, c'est celle qui est le plus présente. Et donc, j'ai pu observer des racines de gentiane aussi. Et en rentrant, j'ai aussi fait mes expériences donc en Bourgogne, puisque j'habite en Bourgogne, qui est aussi une région de boissons. Mes expériences de liqueur. Et après, à Villaglovette, à l'automne, là, j'avais déjà lancé le projet, donc l'idée, c'était plus de préciser ce que j'allais faire à la halle, comment j'allais donner forme un peu à mes recherches. Et je me suis plus intéressée, quand j'étais à Villaglovette, un peu au cosmos de l'âge ancienne ou aux histoires qui peuvent se raconter dessus, plus qu'au côté plastique ou gustatif, que sais-je. Et donc, j'ai quand même rencontré une distillatrice, une herboriste, en étant dans le Vercors. Et aussi, j'ai un peu réfléchi à des... J'ai un peu inventé ma mythologie personnelle de l'âge ancienne, ce qui un peu m'a donné l'idée de... Enfin, c'est un autre truc principal. Mon idée, c'est que en fait, l'âge ancienne, c'est une plante très amère, dont les racines aussi sont très, très profondes. Et un des outils pour l'extraire, un des outils d'ailleurs populaires, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça fait grand effet, c'est genre la fourche du diable. Et donc, en assemblant un peu ces éléments, ça faisait que... Enfin, je me suis dit que l'âge ancienne était une plante qui communiquait avec le monde du dessous, peut-être diabolique ou en tout cas des ténèbres, enfin, au monde auquel on n'a pas accès. Et ça expliquait à la fois son amertume, les vertus qu'on lui prête, qui sont énormes et très fortes. Enfin, dans le top des plantes amères, je crois que c'est la plus amère des amères. Et même l'amertume, c'est un monde en soi, pas juste gustatif, presque philosophique, mais c'est pas... Ou esthétique, enfin, il y a un truc avec l'amertume où c'est... À la fois, il y a un genre de... C'est repoussant, en même temps, c'est délicieux. Enfin, moi, j'adore l'amertume. L'idée du showcase de la halle, c'était de faire de cette vitrine un diorama qui donnerait à voir mes recherches sous forme de mise en scène. Et l'antre de la gentianaire, c'est mon antre, mais c'est aussi une antre fictionnelle. Enfin, j'invente une histoire et je me débrouille pour qu'elle ait l'air réelle. Et c'est un peu ce que je fais dans tout mon travail, en fait, d'inventer des trucs, des objets ou des manières de faire et de faire en sorte que ça existe. Cet antre, c'est comme si on regardait dans le bureau de quelqu'un qui fait des recherches sur l'âge ancienne, mais donc des recherches plutôt presque sur la mythologie de l'âge ancienne que sur que scientifique, un genre de pseudo-science. Et aussi à Pont-en-Royan, quand je m'y suis promenée en octobre, j'ai vu énormément de magasins fermés. Et où il y avait encore les enseignes, enfin, comme si c'était un décor un peu désuet, ou qui était un peu figé. Et j'ai bien aimé cette idée de que ce soit un monde un peu figé, derrière la vitrine, dont on ne puisse pas savoir si c'est contemporain ou en fait si ça a peut-être 60 ans. Donc les objets que j'ai choisis, c'est... il y a un peu de tout, mais c'est plutôt des... c'est presque une brocante en fait, ma vitrine.
Ça convoque beaucoup de choses, l'agence
Yann. Oui. Et aussi, je suis très contente de faire une installation parce que c'est un moyen d'expérimenter des formes artistiques différentes que juste la production d'une œuvre qui est finie et qui est un objet. Et ça m'intéresse aussi de penser ça différemment. Et il y a un lien aussi avec les musées d'art populaire qui sont mon top, mes musées préférés, où je voulais aussi un peu refaire l'idée de donner à voir une pratique, un peu une reconstitution presque muséale.
Alors quand on dit jancianaire, vous voulez bien nous expliquer ce dont il s'agit ?
Oui. Alors, jancianaire, à la base, c'est les gens qui récoltent la gentiane. Et je pense aussi qu'il la transforme. C'est un nom d'usage qui a plusieurs orthographes. Là, en l'occurrence, gentianaire, ça désigne la personne, qui est moi et pas moi à la fois, qui plus fait des recherches sur la gentiane et qui est, je sais pas, qui est peut-être même transformée par la gentiane imbibée.
Vous voulez bien nous rappeler le processus temps
La première semaine que j'ai fait au refuge, elle était l'année dernière en juin. La deuxième semaine en octobre. Sachant que... Non, entre-temps, je n'ai pas trop produit. Je voulais attendre de voir ce qui se passera à Villa Glovette. Mais ensuite, quand je suis revenue de Villa Glovette, j'ai quand même travaillé sur le projet. Ça fait un peu moins d'un an, mais ça fait pas loin d'un an que c'est en cours. Et ça, c'est très agréable aussi d'avoir du temps. Pour être trop précipité, rajouter des trucs au fur et à mesure, en enlever.
Merci beaucoup, Eva Pelzer, pour ces explications concernant cette exposition. Exposition en showcase, Julia.
Oui, donc l'exposition est visible, mais après il y a un petit cadeau qu'Eva nous offre à l'occasion de notre anniversaire. Donc venez les 12 et 13 juin pour découvrir un petit objet pensé pour tout le monde qui aura envie de fêter avec nous cette occasion.
Surprise.
Mystère.
L'exposition donc est visible
tout au long donc du 22 mai jusqu'au 5 septembre, sans contrainte horaire, parce que étant visible depuis la place, il y a juste à passer pour la découvrir, les jours comme la nuit.
Merci beaucoup Eva Pelzer, merci beaucoup Julia Turati pour cet éclairage sur cette antre de la jancianaire à Pont-en-Royans au lieu d'art.